devenir lanceur d'alerte.
Entretien avec la sénatrice Marie-Christine Blandin.
Pourriez-vous revenir sur les avancées les plus significatives contenues dans la loi protégeant les lanceurs d'alerte votée à l'Assemblée nationale le 3 avril dernier ?
Alors, il y a d'abord la définition du lanceur d'alerte et cet homme, cette femme, professionnel, riverain, expert, chercheur, tout est possible. Cet individu va être porteur d'une information sur l'existence d'un risque, forte probabilité de danger, ou d'un danger avéré, dans son environnement, son milieu de travail ou son voisinage, et il n'arrive pas à la faire valoir par les canaux tout à fait normaux, son supérieur hiérarchique ou bien le lieu où l'on se plaint d'habitude d'une nuisance. Ça, c'est la définition. Le champ, c'est le sanitaire, tout ce qui porte atteinte à la santé, ou l'environnemental, tout ce qui peut dégrader l'environnement, l'air, l'eau, la faune, la flore, etc., de façon grave. Voilà. Ça, c'est quelque chose dans cette loi. Et ensuite, il y a le canal, donc par l'intermédiaire de l'entreprise, par exemple, mais surtout notre cellule de recours qui est ce que nous aurions voulu être une haute autorité et qui ne sera qu'un comité, mais ce comité a des missions très précises. Il traite l'alerte et il veille à la protection de celui qui l'a émise, parce que souvent ces gens sont licenciés, discriminés, critiqués, discrédités, placardisés. Il veille à la protection du lanceur d'alerte, mais il veille aussi à la protection du message. Il n'y a pas que la personne qu'on doit protéger, c'est le message. On vous dit qu'il y a du mercure qui coule dans la rivière, eh ben il faut s'en occuper. Et il y aura un suivi de ces alertes. Et du coup, ce comité va aussi regarder ce que font les agences sanitaires, parce qu'elles aussi, peut-être, elles reçoivent des alertes. Toutes vont avoir obligation d'un cahier de consignes de toutes ces alertes et du devenir de ce qu'on en a fait pour les expertiser et soigner le mal, en quelque sorte. Donc voilà, je pense que ça résume bien les choses. Dernière mission, c'est le conseil. Il est évident que, comme on a dit, de déontologie de l'expertise, et que l'histoire, hélas encore récente, nous a montré que les liens d'intérêt de certains chercheurs, de certains experts, de certains professionnels sont trop serrés avec des entreprises pharmaceutiques ou productrices de tel ou tel produit, et que les agences ne tiennent pas toujours à jour la façade numérique qui doit bien montrer les liens d'intérêt et tenir à l'écart les experts un peu mouillés dans les intérêts, par exemple, d'un labo pharmaceutique, les tenir à l'écart de la décision d'arbitrage de mise sur le marché. Eh bien, notre comité qui veillera à la déontologie de l'expertise veillera à la bonne tenue de ces cahiers. Et quand on a manifestement deux expertises très contradictoires sur le même sujet, on regardera qui sont les chercheurs qui l'ont produit, quels ont été leurs protocoles de recherche, et on essaiera de faire mieux et de trouver une solution, quitte à faire une troisième recherche ou à les faire dialoguer ensemble, mais à poursuivre. La vérité en science, ça n'existe pas, mais en s'en approcher le plus et surtout qu'elle ne soit pas détournée par les mensonges du marketing.
Et à l'origine, quel était l'accueil en général par rapport à cette proposition de loi ?
Alors la proposition de loi a été rédigée, puis déposée très officiellement, donc imprimée et mise à la connaissance de tous les parlementaires. Là, les groupes politiques que nous sommes allés voir, auprès desquels nous attendions un grand enthousiasme, se sont un peu raidis. La droite, très soucieuse que les entreprises ne soient pas gênées dans leur course au profit. Les centristes, sceptiques et ne mettant pas de messages spéciaux. Et puis les communistes nous disant « mais ceci ne va-t-il pas déposséder ?» les CHSCT, c'est-à-dire dans l'entreprise, les comités d'hygiène et de sécurité au siège, les syndicalistes qui finalement pourraient assumer cette tâche. Et les socialistes, à notre grand étonnement, tout au moins le président du groupe socialiste qui nous dit Écoute, la priorité du gouvernement, c'est l'emploi, donc toutes vos bricoles, on n'en a rien à faire. Et on ne se mobilisera pas là-dessus. Donc là, on a été déçus. Ensuite, on a continué notre chemin. Et quand on est dans un groupe de la majorité, puisque c'est le cas des écologistes qui siègent à gauche, on est plus en confiance pour aller voir les ministres de gauche du gouvernement. Et là aussi, mauvaise surprise, parce que Marisol Touraine de la Santé n'avait pas l'air au fait de notre sujet et nous dit « mais il y a l'ordre des médecins qui veillent », ce qui n'est vraiment pas une réponse à une alerte de fuite de mercure dans une rivière, par exemple. Ensuite, Michel Sapin nous dit « oui, je vois bien l'intérêt, mais comme ça touche un peu aux droits des syndicats et que je suis en train de faire des négociations partenariales avec des accords qui doivent être signés, ne touchez à rien, chaque virgule peut faire basculer le mécontentement ou le bonheur des uns et des autres. Donc, je ne vous suis pas, c'est vraiment pas le moment. » Voilà. On commençait à être très inquiets. La ministre de la Recherche qui nous dit « oulala, vous avez l'air de dire que les chercheurs peuvent se tromper. C'est pas le moment, on va faire une loi recherche, on va pas mécontenter les chercheurs. » Oui, et puis c'est Delphine Bateau à l'environnement, jeune ministre débutante, courageuse, qui a dit « bon ben moi je prends le sujet ». Et ça a été beaucoup de travail pour son cabinet parce qu'ils ont dû contacter tous les autres ministres et tout ça. Et il a quand même fallu que personnellement j'aille tirer les sonnettes chez le Premier ministre à Matignon et même au cabinet de François Hollande, parce qu'heureusement il y avait un grand médecin, Lyon Camp, scientifique, qui a bien conscience qu'il manquait un gendarme dans l'expertise en France. Donc voilà, il a fallu tricoter, revenir 10 fois, et à la fin, un peu en créant des consensus par l'explication d'une part, et d'autre part en faisant le groupe écolo très en colère, on fait partie de la majorité, on rame tous dans le même sens, vous allez quand même pas nous refuser ça. Avec ces deux tensions, eh bien on est arrivé à faire passer la loi.
Pourrions-nous revenir sur deux lancements d'alerte qui ont été récemment particulièrement marquants ?
Alors, les scandales sanitaires récents, y a eu le Mediator qui a défrayé la chronique. J'ai fait partie ici de la commission d'enquête sur cette histoire. Et d'audition en audition, y compris de Servier, le patron qui fabriquait le Mediator, les médecins, les cellules de vigilance, de surveillance, d'alerte, l'agence sanitaire qui était chargée de veiller, on s'aperçoit que l'Agence française de sécurité sanitaire du médicament, à cette époque-là, rend des avis favorables et n'entend pas ce qui remonte du terrain. C'est bizarre, ils font tous, nos malades, de l'hypertension pulmonaire, il y a des problèmes de valvules cardiaques, il y a des morts, il y a des insuffisances. Ça, c'est l'agence officielle. Et en même temps, à force d'auditionner, eh bien, on entend non seulement Irène Frachon, bretonne, pneumologue, qui dans son hôpital avait montré ses pathologies, avait dit on est en train de tuer des gens, et qui s'était fait marginaliser dans son hôpital. Heureusement, la presse l'a sauvé en quelque sorte. Mais aussi un médecin comme le docteur Chiche à Marseille, qui plusieurs fois avait fait remonter le signalement de pathologies induites par ce médicament, et qui premièrement n'avait pas eu de réponse officielle, mais deuxièmement avait eu son ancien patron prof du CHR qui lui avait téléphoné pour le gronder en disant « tu dis n'importe quoi ». Appel de la mairie de Marseille, ce qui est toujours très troublant quand on est un médecin cardiologue de ville. Et troisièmement, le directeur des laboratoires Servier, qui une semaine après l'alerte vient frapper à sa porte et lui dit « vous n'avez rien compris, je vais tout vous expliquer ». Et là, ça fait froid dans le dos, parce qu'on se dit « mais il y a de l'intimidation d'une part, et d'autre part, Servier est plus vite au courant que le ministre de la Santé ». Alors que des morts sont en perspective. Voilà l'histoire, un petit bout de l'histoire du Mediator côté lanceur d'alerte et la nécessité d'entendre ces gens, de protéger les gens et le message, et de faire quelque chose de leur message. L'autre histoire beaucoup plus vieille, c'est l'amiante. L'inspecteur du travail qui crie au secours, c'est en 1906. Et quand on retrouve ses écrits, mais il décrit la pathologie, il décrit la contamination, et il décrit comment les gens n'arrivent plus à respirer, etc. Il ne sera pas suivi. Moi, j'ai rencontré des médecins du travail à Marseille, même chose, des syndicalistes, des ouvriers qui avaient été placardisés, licenciés, etc. J'ai aussi rencontré des syndicalistes courageux qui avaient dénoncé et d'autres qui ont avoué, on peut pas forcément les blâmer, mais dans un des temps reculés, avoir plutôt, au vu du risque, négocié des augmentations, des primes de risque, que d'exiger la tenue à l'écart du poste de travail contaminant, parce que ça signifiait peut-être la fermeture du poste de travail et donc des licenciements. Le chantage à l'emploi est quelquefois complètement intégré dans la pensée des gens. C'est ce qui s'est passé pour les ouvrières des prothèses PIP qui savaient très bien qu'on remplissait les poches destinées à devenir des seins artificiels, le plus souvent avec ces bidons de liquide non validés, toxiques, qui n'étaient pas aux normes. Elles ne savaient pas qu'ils étaient toxiques, mais elles savaient très bien que ce n'était pas le produit validé par les instances sanitaires. Et on leur dit, mais enfin, pourquoi n'avez-vous rien dit ? Parce qu'il faut manger tous les jours et qu'elles ne voulaient pas perdre leur travail.